Tout pour investir, les marchés et vous.
Les marchés et vous et Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Bonjour Alain.
Bonjour.
On a passé beaucoup de temps à parler des banques centrales dans cette émission et ailleurs, dans l'actualité des entreprises. Et puis, depuis qu'on parle de politique, on parle plus du tout de banques centrales. Où sont-elles passées et est-ce qu'elles vont servir à quelque chose? Pardon de poser les questions un peu simplement, mais il faut être entendu. Est-ce qu'elles vont servir à quelque chose cet été, les banques centrales, dans ce bordel politique, pardon pour le dire comme
alors,
ça?
Oui. Alors, bon, je dirais il va y avoir deux temps, je pense. À court terme... Alors c'est sûr que ça, sur les 15 jours, 3 semaines qui viennent, que ça soit en France ou en Angleterre par exemple, où il y a des élections législatives dont on parle pas trop en France mais qui vont avoir un rôle aussi, on va vraiment parler d'autre chose que les banques centrales. Et la baisse éventuelle de taux de la BCE ou de la Banque d'Angleterre va passer vraiment au second temps. Alors par contre, à plus long terme, le rôle des banques centrales, il va certainement pas changer et il y aura peut-être du travail cet été, il faudra qu'elles restent sur le pont. Parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses. Et puis, plus tard, un peu plus tard, probablement, la Fed qui va, d'ici la fin d'année, reprendre son rôle central. Ça, c'est clair.
Bon, pour la politique à court terme, on a compris. Mais pourquoi, selon vous, la Fed et les Américains vont encore occuper tout l'espace de réflexion et l'espace médiatique?
Si vous voulez, elles sont au cœur du système économique mondial. Elles ont vraiment pour mission de garantir la stabilité du système financier et puis de promouvoir l'économie, promouvoir la croissance économique d'une manière ou d'une autre et de faire en sorte que ça soit le plus durable possible. Et elles ont des missions qui sont clairement au cœur de tout ça. Alors si on peut les énumérer, je vais essayer de passer assez rapidement. Il y a la stabilité des prix, ça c'est tout ce que tout le monde voit. Il y a quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins, c'est la supervision du système financier. Elle s'arrange et elle s'organise pour superviser et faire en sorte que les réglementations soient respectées.
Elle gère le risque, on peut le dire comme ça.
Pardon ?
Elle gère le risque, on peut le dire comme ça.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, elles font en sorte qu'il n'y ait pas d'acteurs défaillants qu'elles n'auraient pas prévus et circonscrits dans un coin, on va dire, pour faire en sorte que ça ne perturbe pas l'ensemble du système financier. Elles facilitent les paiements. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et on le voit, dès que ça se grippe, l'économie s'arrête. Donc leur rôle est très important sur ce plan-là. Elles émettent la monnaie. Et puis, elles ont aussi, chacune à leur niveau, parce qu'elles n'ont pas toutes le même poids, elles contribuent au système financier international parce qu'elles coopèrent entre elles et elles se préviennent d'éventuels problèmes. Et elles agissent pour essayer de prévenir les crises financières. Donc c'est certain que on en parle moins en ce moment, mais ça va revenir sur le devant de la scène. Et puis évidemment, la Fed, qui est la plus importante, elle va être au cœur de l'actualité à un moment ou à un autre. Alors on a les élections qui vont arriver, et puis elles donnent le ton pour l'ensemble de l'économie aux États-Unis, bien évidemment, comme partout, avec le niveau des taux courts qui donne le niveau auquel les entreprises et les ménages vont s'endetter, mais également son rôle pivot par rapport à toute l'économie mondiale. Donc rôle clé qui va revenir, ça vous inquiétez pas, vous allez avoir des sujets sur la Fed d'ici la fin d'année.
Ouais, ce rôle pivot dans la stabilité du système international, du système financier mondial, on peut prendre un exemple concret, notamment la maîtrise de l'inflation, c'est une de ces missions qui dépassent les frontières.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que, et c'est là que ce sont des défis qui ne sont pas évidents, parce que les coordinations ne sont pas évidentes elles-mêmes. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, l'inflation, mais vous avez plusieurs causes à l'inflation. Alors, ça peut être, comme en Europe, une perturbation des chaînes d'approvisionnement liées au Covid, à la guerre en Ukraine, et puis vous avez en face de ça une inflation aux États-Unis qui est liée à une demande qui est restée assez forte. Donc pour elle, c'est difficile parce que en fait, il faut qu'elle trouve l'équilibre entre freiner l'inflation et agir vraiment sur l'endroit où l'inflation monte, sans non plus casser l'économie et augmenter le chômage. Donc on voit bien que cet équilibre est particulièrement instable. Et moi je pense aussi, donc ça c'est quelque chose qui est récurrent, hein, ça date de plusieurs dizaines d'années, il n'y a pas le sujet, mais je pense que à court terme, il pourrait y avoir de l'actualité cet été qui ferait que les banques centrales seraient vraiment sur le pont. Ça, je pense que ça va être l'expression.
Je vais vous le dire tout de go. Est-ce que vous pensez à une intervention de la BCE pour éviter une crise de la dette?
Alors, ça, c'est un scénario de crise. Hein. J'en avais parlé un peu la dernière fois que j'étais venu, il y a une quinzaine de jours. C'était les scénarios qu'on pouvait imaginer, un scénario de crise avec la BCE qui intervient pour essayer de juguler le problème. Je pense que ça va arriver, effectivement. Enfin, peut-être, ça peut arriver. C'est un sujet, espérons tous qu'on évite ça. Mais je pense que par le biais des devises, on pourrait avoir vraiment de l'actualité dès cet été.
À mon avis, vous avez envie de me parler du yen, là.
Oui, alors effectivement, parce que alors si on regarde le point de départ de tout ça, c'est vraiment ce qui s'est passé aux États-Unis depuis deux ans maintenant. C'est cette très forte hausse des taux américains qui a conduit à une vigueur du dollar et puis qui a des impacts sur les ensembles des économies. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les économies et les marchés sont très liés entre elles. Ça, c'est quelque chose qu'on sait tous. Et puis dans le cas des devises, c'est même encore pire, puisqu'en fait, la hausse d'une devise a un effet sur une autre. C'est-à-dire que quand vous avez une devise forte, vous avez forcément un endroit, une devise qui est plus faible. Et je pense que on a, depuis maintenant plusieurs mois que ça dure, on a quelques candidats potentiels assez forts, assez évidents, pour mettre un beau bazar cet été et à l'automne ou plus tard.
Il y a le yen, il y a la monnaie chinoise, et à mon avis, vous avez une petite monnaie sud-américaine aussi en tête, une ou des.
Voilà, c'est ça. Alors, en fait, bon, le yen, on va en parler, le yuan aussi, c'est un peu plus long. Les devises émergentes, ça fait un moment que ça dure, et je pense qu'il y a des signes un peu de craquement à droite à gauche. Bon, il y a le réel brésilien qui a bien baissé, le peso qui a bien baissé, d'autres devises asiatiques qui sont sous pression. Donc, oui, on est... je pense qu'on est mûr pour un été qui pourrait être un peu chaud, en fait, sur ces devises.
On voit l'idée, on voit se dessiner une sorte de jeu de domino. Est-ce qu'on peut revenir, pour conclure, sur l'Europe, Alain, avec vous? Est-ce que vous envisagez une situation tendue, c'est le mot, sur la zone euro, et une intervention de la BCE potentielle à court terme?
Oui, alors, bon... C'est un scénario de crise, hein. Alors, clairement. Alors les scénarios de crise, alors je sais qu'on aime bien tous en parler parce que c'est plus visuel, mais on peut pas gérer avec un scénario de crise, c'est difficile. Mais enfin, il faut l'avoir à l'esprit. Et il y a effectivement un scénario de crise suite aux élections françaises, puisqu'en fait, on est sur une situation où l'État français est très fortement endetté, donc ça nous fragilise. Et il y a une probabilité donc qui est vraiment pas nulle. Et alors ça vient toujours de la même chose, hein, c'est-à-dire que des décisions politiques, un écart de taux avec l'Allemagne qui s'écarte. Quelque chose qui se grippe à un endroit et ça on risque de l'apprendre à nos dépens, parce que si la BCE intervient, et ça je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit, c'est que il va y avoir des conditions à cette intervention. Donc c'est ça qui va faire qui va mettre une grosse pression, c'est-à-dire que en fait des phénomènes de marché, une intervention plus ou moins annoncée de la Banque Centrale Européenne avec des conditions d'intervention. Et ce qui fait que on va se retrouver comme ça, comme on l'a connu dans les périodes de crise de zone euro, avec des réunions de crise, des réunions de la dernière chance, etc. Et ça va être quand même être très perturbant, parce qu'en fait on va avoir donc un bras de fer entre ce que va demander de mettre en place la BCE comme mesure structurelle et ce que pourront faire les politiques français qui ont été juste élus, quoi, en fait.
Alain, on compte sur vous pour nous aider à décrypter cette situation dans Tout pour Investir, mais on vous entend aussi avec Marc Forentino dans C'est votre argent régulièrement. L'été sera chaud, c'est ce qu'il faut retenir, avec des impacts sur l'euro. Et puis, attention, hein, vous nous dites, attention aux devises, à une guerre d'échange, on l'a entendu. On parle de yuan, on parle de yen, on parle aussi de monnaie sud-américaine. Alain Pitous, en podcast et en replay sur notre site et notre application, son analyse disponible d'ici quelques secondes. Alain, on se retrouve au moins dans 15 jours.